Bonjour et bienvenue dans le Shaker, il est 12h30 et passé de quelques minutes, nous sommes en direct pour ce Shaker, ça va et ça revient, je vais l'enlever ce casque, il va me plaire perturbé durant toute cette demi-heure. Donc c'est votre agenda culturel pour Studio ZEF sur Blois et Vendôme, et donc salut Mathilde, qui on reçoit aujourd'hui?
Salut Thomas, aujourd'hui on reçoit Sandrine Séon, directrice du CIDFF41 et Claire Siono, psychologue.
Bonjour.
Bonjour à toutes les deux, merci de nous rejoindre. On s'arrête pour discuter avec vous dans une toute petite dizaine de minutes. En attendant, donc, on commence cet agenda avec une commémoration donc, pour la journée nationale d'hommage aux victimes de terrorisme qui se tiendra ce mercredi 11 mars. Ça sera place de la République à Blois à partir de 10h50. Un dépôt de gerbes par les autorités est organisé à 11h15 et la cérémonie se terminera à 11h20.
Le Minotaure à Vendôme accueille ce samedi 7 mars le forum des jobs d'été et alternance. Destiné aux lycéens et étudiants, ce forum vous permet de rencontrer des professionnels prêts à vous accompagner dans vos projets. Les employeurs seront présents pour vous donner des conseils et des opportunités concrètes. Les portes du forum vous seront ouvertes de 10h à 17h. L'accès est gratuit.
Vous le savez, la semaine elle a commencé cette semaine. On va en parler largement avec nos invités du jour. On vous dévoile aussi ce qu'il se passe dans les autres événements, sur les autres lieux dans la semaine qui vient. 34 événements sont à prévoir sur la semaine à venir. Conférences, théâtre, cinéma, l'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site de la ville de Blois. Pour cet agenda, on fait un focus sur la petite pièce en haut de l'escalier par la compagnie du Divan. L'adaptation du roman de l'autrice québécoise Carole Fréchette, aussi présente à Blois. Pour l'occasion, la pièce met en scène Grace, dont le mari lui a interdit l'accès au grenier. Personnage envahi par les doutes et la curiosité, cette adaptation immerge le public dans les méandres d'une relation amoureuse et de l'âme humaine. Deux représentations à l'espace Georges Champrin auront lieu dimanche 8 mars à 17h et mardi 10 mars à 20h. Le tarif des places est compris entre 10 et 14 euros. La réservation se fait sur le site de la compagnie du Divan. D'autres événements à promouvoir dans le cadre de cette semaine,
oui,
Mathilde.
On évoque aussi la rencontre organisée à la maison de la BD le mardi 10 mars à 18h30 avec Shadia Chabilly Lou Eslati, autrice du roman graphique Liberté, Égalité, S'émanciper, lauréate du prix des lycéens et des lycéennes et lycéens de la BD à portée citoyenne de la région Centre-Val-de-Loire. Elle partagera son histoire personnelle et son combat contre l'oppression domestique. Et on évoque la projection au lobbyiste du film documentaire My Stolen Planet de Farah. Oh là là.
Ah bah, tu t'es mis des bâtons dans les roues,
ouais,
là.
Ouais. Ça, exactement. Farah Anas Safiri, réalisatrice iranienne, elle a filmé et documenté chaque moment de joie devenu un geste de résistance dans un pays en crise. À travers ses images symboles de mémoire vivante, elle dresse un portrait intime et bouleversant de la condition des femmes en Iran. La projection sera suivie d'un temps d'échange avec la distributrice du film. La séance se tiendra ce jeudi 12 mars à 20h30.
Une projection d'une actualité brûlante, on l'aura compris. On enchaîne avec le mini-festival Première fois qui revient à la Halle aux Grains. Il met en lumière de nouvelles écritures et forme d'expression artistique. L'événement permet au public de découvrir des spectacles inédits qui bousculent les frontières classiques du théâtre, de la danse et de la musique. Au programme, le spectacle Loto 3000 qui reprend les codes du jeu populaire et le transforme en un moment festif et unique sur scène. Alliant humour et suspense ludique, le collectif S propose une performance captivante où la chance et l'illusion s'entremêlent. Les représentations, dont le tarif est compris entre 8 et 24 euros, sont prévues samedi 7 mars à 18h et dimanche 8 mars à 16h à la Halle aux Grains.
Le second spectacle, intitulé « Une fin », mélange théâtre et essai sonore. Cette expérience immersive imagine ce à quoi ressembleraient les derniers moments de vie de centaines de personnes forcées d'assister à la fin du monde. Sous un ciel rouge incandescent, leurs désirs, peurs et gestes d'amour vont s'entrechoquer. Cette fresque intime et poignante est un projet unique réunissant professionnels et amateurs. Les représentations se tiendront au théâtre Nicolas Peskin les vendredis 13 mars à 19h et samedi 14 mars à 15h et 20h. Le tarif uni est fixé à 6 euros. D'autres spectacles sont à prévoir. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Halle aux Grains et l'achat des places s'effectue sur leur page web.
Une inauguration maintenant avec les associations Initiative Afrique Plus et Tatrit qui se sont associées pour vous offrir une semaine consacrée à la culture Touareg. Le vernissage de l'exposition à la rencontre des Touareg aura lieu à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme, donc ce samedi 7 mars à 17h. L'exposition vous invitera à découvrir la richesse de la culture Touareg, donc à travers des archives de l'universitaire Michel Vallée. Le but étant de déconstruire les stéréotypes et d'aller à la rencontre d'une population méconnue. Divers objets tels que des bijoux, dessins et photos seront exposés. L'exposition gratuite sera visible jusqu'au 18 mars, le mercredi 18 mars. La chapelle Saint-Jacques est ouverte de 10h à 17h tous les jours à Vendôme.
Pour notre premier concert, on parle du chanteur-compositeur myrtoïde Radfar qui sera présent à la médiathèque de Montprêt-Chambord ce soir à partir de 19h. L'artiste iranien puise dans les traditions musicales persanes tout en apportant une sensibilité profonde actuelle. Sa maîtrise du tambour, instrument traditionnel, envoûte le public et le fait voyager dans un univers sonore riche et vibrant. Organisé dans le cadre du dispositif Musique en scène, ce concert vous est proposé en partenariat avec le Château d'Eau. L'entrée est libre et gratuite, mais la réservation au 02 54 70 89 71 est obligatoire. Et pour notre première pause musicale, on va écouter le titre Zeyi Ezg de Myrtoïde Radfar avec Pouyan Kazemian.
زست چه خوب است چه زیباست خدا یا چه گرمی از این عشق چه خوشی چه پنهان چه پنهان چه پیداست خدا یا زنجیر همه بسته چرایی چه بنده از چه زنجیر که بر پاس خدایا چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دلها غریب است غریب است بالاست خدایا زست چه خوب است چه زیباست خدایا زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا چه نغز است چه خوب است چه زیباست خدایا.
Un grand moment de musique qui ne manquera pas d'être un grand moment d'émotion et un grand moment politique. Le musicien et chanteur iranien Mirtoid Radfar donc sera en concert ce soir à la médiathèque de Montpré-Chambord. Mathilde, c'est l'heure de notre interview avec nos invités.
Exactement, donc on reçoit en plateau Sandrine Séon, directrice du CIDF. CIDFF 41.
Ça nous est arrivé aussi avant, Mathilde,
t'inquiète pas. Et Claire Siono, donc psychologue. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter chacune, donc un petit peu plus vraiment vos rôles au sein de l'association, s'il vous plaît, et présenter l'association ?
Eh bien, moi, je dirige l'association. Donc, l'association a été créée en 1981 dans le Loir-et-Cher. C'était un an seulement après la définition du viol comme un crime et deux ans avant la loi sur l'égalité professionnelle homme-femme. Depuis, il y a eu beaucoup de travail de fait et il y a encore beaucoup de travail. Donc, moi, mon rôle, c'est un rôle de coordination, de direction, de pilotage stratégique et financier, voilà, des choses importantes dans la gestion d'une asso qui porte une cause comme celle-ci.
Et moi donc je suis psychologue, j'ai été recrutée il y a un an et demi au CIDFF, c'est une création de poste, il n'y a pas de psychologue dans tous les CIDFF de France. Il y a des CIDFF dans beaucoup de départements de France, mais ils n'ont pas tous un psychologue. Et donc, à mi-temps, depuis un an et demi, j'accompagne des femmes qui sollicitent en première ligne une information, souvent juridique, etc. Et puis, par la suite, un accompagnement pour les aider à cheminer dans leur parcours en lien avec des violences conjugales ou des violences intrafamiliales. Et puis, je travaille en lien avec mes collègues, puisque nous sommes une équipe pluridisciplinaire au CIDFF. Nous sommes actuellement 7 salariés sur le terrain. Voilà, je ne sais pas si c'est le moment de les présenter un peu plus en détail ou on y reviendra. Mais...
Juste, j'ai une petite question au niveau de l'aspect psychologue. Vous avez suivi une formation pour intervenir justement au sein du CIDF pour vous concentrer sur les violences?
Alors, en tant que psychologue, donc, on suit une formation à l'université qui dure 5 ans. Et puis après, effectivement, moi, j'ai suivi une formation en victimologie, voilà, qui m'a permis d'avoir une approche plus spécifique de la question des violences. Alors, la formation n'était pas ciblée violences conjugales et violences sexuelles et intrafamiliales. Elle était pour tout type de situation, de se retrouver victime d'un attentat, voilà. Mais c'est vrai que ça demande quelques spécificités qu'il faut pouvoir identifier et puis des outils aussi après à mettre en place pour être au plus près de la singularité de chaque situation. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si c'est maintenant que j'en parle aussi, mais il s'agit de psychotrauma, il s'agit de fonctionnement d'emprise au niveau psychologique qu'il faut pouvoir identifier. Et donc, c'est un travail long cours. Et des outils spécifiques.
Justement, quelle aide d'un point de vue psychologique, d'un point de vue logistique vous apportez et quel est le rôle des 7 autres employés ?
Je vais présenter donc mes collègues. Nous avons 2 collègues juristes. À la base, les CIDFF sont vraiment axés sur dispenser de l'information juridique et de pouvoir accompagner ces personnes dans une meilleure compréhension du système judiciaire. Et donc, ces 2 collègues juristes reçoivent sur tout le département. On a un lieu, l'abri Gisèle Halimi, où on a notre siège social et où on reçoit des personnes. Mais on peut recevoir aussi, notamment à Romorantin, à Vendôme, ou même dans des permanences France Travail sur tout le département. À partir du moment où on a une question en lien avec le droit de la famille principalement, je me sépare, je me questionne pour la garde de mes enfants, etc. Et donc ces 2 collègues juristes peuvent recevoir dans ce cadre-là. L'information est confidentielle, gratuite et anonyme. Il y a aussi une collègue qui est conseillère en insertion professionnelle, puisqu'on a vraiment identifié que les femmes étaient désavantagées dans leur insertion professionnelle majoritairement. Et donc, elles se concentrent dans le fait de pouvoir les accompagner à rattraper un petit peu ce qui leur fait défaut en termes des fois de formation, en termes de connaissances aussi. Et donc, elles renforcent les dispositifs qui sont déjà existants par France Travail. Et donc, elle est là pour leur proposer une aide sur les CV, mais aussi... mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes pour s'insérer dans le travail, parce que certaines n'ont parfois jamais travaillé. Et suite à une séparation, il faut aussi pouvoir subvenir à ses besoins. Enfin, il y a des enjeux financiers importants et c'est souvent par le travail que... Voilà. Et puis, on a un collègue qui s'occupe du standard et de l'accueil, et c'est effectivement très important puisque c'est la première ligne, hein, c'est là où on reçoit. Voilà. Et on a également une collègue qui travaille sur l'accompagnement des femmes victimes du système prostitutionnel, puisqu'il existe un dispositif d'État spécifique porté par la préfecture qui permet à des femmes qui sont victimes de prostitution de bénéficier de certains outils aussi pour essayer de s'en sortir de cette pratique et de cette situation dramatique, et donc en proposant un accompagnement de professionnels. Donc ma collègue Nolwenn, qui peut aider pour trouver un logement et au niveau des démarches administratives, et mettre en lien aussi avec notre collègue Laurence CIP, qui aide aussi pour retrouver un emploi, etc. Donc voilà, il faut se coordonner. Il faut quelqu'un qui puisse coordonner ces parcours qui sont très complexes. Moi aussi, en tant que psychologue, je peux intervenir dans ce cadre-là. Donc l'équipe a été... Et puis actuellement, j'accueille une stagiaire psychologue aussi, puisqu'il faut bien former la relève.
Et donc toutes les collègues professionnelles, donc juristes, psychologues, conseillères en insertion professionnelle et intervenantes sociales, interviennent également en formation ou sensibilisation. Sensibilisation du grand public sur des supports, des lieux divers et variés, dans le milieu scolaire, beaucoup, mais aussi auprès des professionnels ou des jeunes professionnels. Elles sont intervenues la semaine dernière auprès, sur le site de Blois de l'ITS, Institut du Travail Social, et c'est assez important.
Quand vous intervenez justement auprès du public, notamment auprès des jeunes, est-ce que vous diriez que c'est des questions qui les concernent? Qu'est-ce qu'ils connaissent déjà de ça? Quel est leur rapport?
Alors oui, c'est des questions qui les concernent. Après, il y a vraiment une variabilité. On observe des grandes différences en fonction de là où on intervient, quand on intervient, etc. L'âge à laquelle on intervient aussi. Nous, après, on dispense de l'information et de la formation, mais aussi on est là pour recueillir justement leur représentation quant à la question de la place des hommes et des femmes dans la société. Est-ce que oui ou non, ils perçoivent qu'il y a une discrimination à certains moments, à certains endroits, ou ça, etc. Et avec ces éléments-là, on peut réajuster ce qu'on leur transmet, quel message on peut essayer de faire passer, sachant que l'idée, c'est pas de... évidemment, on transmet des chiffres, par exemple, pour expliquer, en fait, on a tant de femmes qui sont concernées par an, on a tant de situations, ça peut aller jusqu'au féminicide, quand il s'agit de violences, mais on n'intervient pas que sur la question des violences, on intervient aussi sur la question, la différence de salaire, la différence d'opportunités en insertion professionnelle, le fait de souligner comme ça qu'en tant qu'hommes et femmes, en devenir, puisqu'on va avoir un rôle à jouer après dans la société en tant que citoyen pour prendre conscience et puis peut-être réajuster un petit peu pour que hommes et femmes se retrouvent vraiment dans l'égalité qu'on prône a priori, mais dans les faits, en pratique, on voit bien qu'il y a quand même énormément de situations où ce n'est pas le cas. Donc on a cette vigilance à comprendre où ils en sont dans la prise de conscience de l'égalité, oui, comment, pour faire un petit progrès. Et puis ça me demande des années, parfois, de conscientiser les choses.
J'aimerais bien aussi qu'on revienne sur l'abri Gisèle Halimi. Donc, c'est là où est située l'association. Il y a d'autres associations regroupées dans cet abri. Est-ce que vous pouvez les présenter?
Oui. Alors, effectivement, l'abri Gisèle Halimi a été inauguré l'année dernière pour la journée du 8 mars, en présence de la petite fille de Gisèle Halimi et puis d'une représentante de l'association Choisir la cause des femmes. Et donc, on a pu, comme ça, être présents, les trois associations qui occupent ces locaux à cette inauguration, où il y a un beau poirier qui a été planté dans le jardin pour marquer le coup. Et on espère, nous tous, travailler conjointement aujourd'hui. Donc, le planning familial, qui est là historiquement dans ces locaux depuis bien avant nous, et bien avant que ce soit devenu la Brigitte Alalimi, et donc qui a également un accueil de jour qui s'appelle l'accueil Artemisia, à destination des femmes victimes de violences, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h. Voilà. Donc on peut se reposer sur le temps de la journée, manger, faire une lessive, ce genre de choses. C'est nécessaire. Voilà. Et puis donc le planning avec toutes les activités qu'ils mettent en place aussi. Eux aussi font par exemple des sensibilisations en milieu scolaire sur des sujets qui sont connexes aux nôtres, peut-être plus sur la santé sexuelle, etc. Mais en tout cas, on est complémentaires dans nos approches. Et voilà, ça dépend des territoires aussi où on intervient. On peut se mettre en partenariat où chacun fait de son côté. Mais il y a aussi l'association du collectif du droit des femmes qui, là, est portée par des bénévoles et qui sont aussi très engagés sur le territoire du Loir-et-Cher depuis de nombreuses années. Donc, on est encore tout récent à l'abri. Hein, ça fait qu'un an. Ça a été une année particulièrement complexe en termes de politique en lien notamment avec les financements associatifs, etc. Donc, on était dans une phase un peu insécure. Donc, ça, c'est pas très favorable au fait qu'on puisse développer énormément de choses en partenariat, etc. On espère que l'avenir sera plus florissant pour les associations et pour... et qu'on puisse se fédérer aussi et créer en synergie des actions au nom de l'abri Gisèle Halimi.
Malgré tout, le lieu, vous considérez qu'il a été bien identifié par les personnes qui en ont le besoin ?
Je pense qu'il y a encore du chemin à faire.
Hein, bien sûr, oui, j'imagine.
Mais vous voyez, ce matin, par exemple, concrètement, quelqu'un est arrivé orienté par une autre personne qui dit « Ah bah... »
C'est
cette femme était en détresse, je voulais la ramener, donc elle a su nous identifier. Mais je vous avouerai que ça arrivait ce matin, ça n'arrive pas tous les jours non plus.
Bien sûr.
Et puis en même temps, on ne pourrait pas non plus, dans les situations d'urgence, on n'est pas non plus, malheureusement, on n'est pas un espace où on a les moyens de faire de l'accueil d'urgence, ni même de... Enfin, ça s'appelle l'abri, mais en l'occurrence, on n'a pas d'hébergement possible aujourd'hui.
Paradoxe.
Est-ce que vous étiez familière avec l'association avant d'y travailler ou pas du tout, quand on parle de visibilité ?
Oui, moi je ne suis pas arrivée au CIDFF par hasard. En fait, j'avais découvert vers le CIDFF dans l'Indre-et-Loire, puisque précédemment je travaillais et vivais en Indre-et-Loire, puisque je travaillais en épicerie sociale et solidaire, et le CIDFF se déplaçait sur des interventions auprès des femmes en situation de précarité alimentaire, etc., dans les quartiers prioritaires de Saint-Pierre-des-Corps. Et donc c'était mon premier contact avec le CIDFF. Voilà. Et quand je suis arrivée sur le Loir-et-Cher pour travailler cette fois dans le cadre de la prévention spécialisée, donc avec mes collègues éducateur de rue, je me suis dite que ce serait intéressant d'aller rencontrer le CIDFF et d'initier des choses. Bon, après, malheureusement, pareil, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on a les intentions, mais on n'a pas toujours ce qui suit. Pour autant, pendant un moment, moi, j'ai fait une pause professionnelle, en tout cas sur le Loir-et-Cher, mais je suis revenue quand le CIDFF a cherché une psychologue. J'ai postulé en disant, c'est le moment ou jamais. Et donc, ça fait un an et demi. Le travail d'accompagnement des femmes demande énormément de disponibilité, mais j'espère bien qu'on va pouvoir lever un peu la tête parfois aussi pour comme ça recréer des liens avec des partenaires du territoire, la prévention spécialisée ou d'autres, pour un peu être plus visible, pour fluidifier les parcours de ces femmes qui ont besoin qu'on soit identifiées.
Alors moi, je viens d'arriver.
Oui, vous me disiez, ça faisait un mois, c'est ça.
Ça fait un mois que je suis là. J'ai un parcours de dirigeante associative dans le domaine de l'insertion et dans le Loiret. Et effectivement, le CIDFF 45 était un de mes partenaires pour différentes actions. L'accès à l'emploi, j'ai pu aussi faire intervenir pour des sensibilisations à l'égalité sur le lieu de travail.
et aux violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail, parce que c'est aussi un axe que travaillent les CIDFF. Et effectivement, quand il y a eu un poste de direction disponible, enfin ouvert, il y a eu une opportunité, ça correspondait à ma situation de recherche d'emploi. Donc j'ai postulé. Quand on parle de la visibilité du CIDFF, il faut souligner que nous sommes membres de la Fédération nationale et de la Fédération régionale, et que ce sont des appuis très importants qui permettent de porter le plaidoyer. Là, à quelques jours, des élections municipales, la Fédération nationale a porté un très beau plaidoyer pour dire que les communes, les élus municipaux peuvent beaucoup influencer l'égalité et la sécurité de tous et de toutes. Et on l'a relayé aussi localement. Voilà, la fédération régionale nous permet, on a plein d'actions sur lesquelles on intervient, et c'est des leviers très très intéressants.
Je suis extrêmement admirative de tout le travail que vous faites. Quand on voit l'actualité, quand on voit, vous l'avez parlé, la baisse des subventions, quand on voit le nombre de procès, les décisions de justice parfois qui ne sont pas en raccord avec ce que la victime attendait, ce que la victime a le droit de recevoir, comment est-ce qu'on fait pour garder espoir? Qu'est-ce qui vous motive à travailler? Comment vous faites pour avoir cette force, en fait, tout simplement?
Alors, je vous préviens, on n'a pas 2 heures, par contre, pour répondre. Donc, malheureusement, oui, beaucoup plus, je sais bien, j'en suis bien conscient.
Il y a eu des progrès, donc ça donne espoir. Après, c'est pas linéaire, évidemment. Il faut prendre en compte qu'un recul n'est pas, enfin, peut présager de quelque chose qui évolue favorablement derrière. Voilà, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, des bas. Mais c'est vrai que, alors, moi, dans le cadre de ma pratique de psychologue, ce qui me motive, c'est de voir que il y a des progrès aussi pour ces personnes au jour le jour, et qu'il y a des beaux accomplissements. Il y a des, alors, ne soyons pas angéliques, hein, c'est pas tout blanc tout noir, on n'en sort pas, ça y est, tout est réglé, etc. Mais il y a des ressources qui peuvent être mobilisées, il y a des pistes qui s'ouvrent, il y a des portes qui finissent par s'ouvrir à certains endroits à force de persévérance, et surtout, vraiment, je le réinsiste, moi je défends la pratique du psychologue en association, ou en tout cas en équipe, en institution, parce que c'est le travail en équipe qui fait levier dans beaucoup de situations. Donc oui, moi je reste optimiste dans la mesure où si je ne l'étais pas, je ne pourrais pas bien accompagner les femmes que j'accompagne. Et c'est mes collègues aussi qui m'aident à garder espoir quand j'ai un coup de mou. Voilà.
Alors moi je vais faire court, hein. C'est vrai que Simone de Beauvoir a dit « N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en cause ». Effectivement, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, ou si même on regarde notre pays, le Haut Conseil à l'égalité a quand même pointé en tout début d'année que la première menace terroriste, c'est celle des masculinistes. Donc je pense qu'il faut dire les choses, hein. Mais il y a des leviers énormes, et nous, le secteur associatif, malgré les maltraitances qu'on nous fait, hein, l'insécurité des financements en est une, on continue à agir, même si c'est dans des interstices tout petits. Une femme qui va mieux, qui arrive à exposer dans nos locaux, puisqu'on va peut-être finir par pouvoir par dire qu'on expose, c'est une super victoire. C'est pas, voilà, on change pas le monde, hein, mais je crois qu'on sait, voilà, on change pas le monde, on intervient dans des petits interstices pour qu'il y ait des choses qui aillent mieux.
Justement, on vous reçoit dans le cadre de l'exposition La relève de la combattante anonyme, dans le cadre donc de la semaine L. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette exposition s'est mise en place? Quelle est cette exposition?
Alors, cette exposition, donc c'est celle des dessins d'une dame que j'accompagne depuis plusieurs mois. Un jour, elle a commencé à me montrer des choses qu'elle crayonnait ou qu'elle avait réalisées sur son téléphone portable. Il faut savoir qu'elle les a réalisées dans des conditions précaires. Voilà, elle n'a pas beaucoup de choses sous la main, etc. Et donc, quand j'ai vu ce qu'elle était en mesure d'exprimer par le dessin, j'ai été tout de suite très interpellée, je trouvais qu'elle était en mesure de dire par son dessin des choses qu'elle n'avait pas réussi, enfin le mot réussir c'est pas le bon, mais qu'elle n'avait pas pu exprimer par oui, la voix.
L'utilisation
en fait.
De l'art-thérapie.
Alors, pour elle, je ne pense pas qu'elle en parle comme de l'art-thérapie, mais en tout cas, ça a un effet thérapeutique. Ouais, le côté art, enfin, la pratique artistique a un effet thérapeutique et puis un effet d'expression. Enfin, ça permet de communiquer aux autres des choses qu'on ne peut pas dire avec les mots, parce que quand même, un des premiers signes de la violence, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas la dire, la violence, enfin, dans un premier temps, en tout cas. Elle coupe le souffle, elle est... voilà. Et on la comprend pas, en fait. C'est un moment où il y a quelque chose qui s'effondre. Donc, on n'a pas les mots, on n'a pas la conscience. Et puis après, ça revient, mais, ou pas, ou ça met du temps. Mais... Et donc là, cette femme qui est victime de violence a pu, par ses dessins, me donner à voir voilà, une profondeur, des nuances... Parce qu'il n'y a pas que de la noirceur, il n'y a pas que les coups, parce que y a, mais il y en a. Et évidemment, ils ne sont pas dessinés, mais ils sont suggérés par le dessin. Il n'y a pas que tout ça, mais c'est là. Et il y a aussi voilà, ce qui est de l'ordre de l'espoir, il y a ce qui est de l'ordre de sa puissance créative. Parce que là, si on dit femme résistante, femme résiliente, et moi, je trouve que ce qui démontre de ces aptitudes-là de résister et de résilier, c'est de créer, en fait. Et des fois, c'est des petites choses. Et des fois, on arrive à faire des grandes choses quand on se fédère et qu'on est plusieurs. Et donc, elle, là, je ne dirais pas que c'est petit ou grand. Ce sont ses dessins. Elle les donne... alors, elle nous les a confiés. Et elle a accepté. Alors, au départ, elle n'était pas. C'est pas elle qui a demandé à ce que ce soit exposé. Hein, évidemment. En tout cas, c'est très complexe. Mais par le travail qu'on mène ensemble, qu'on fait toutes les deux, elle a accepté de nous les confier et de les donner au regard des gens qui vont pouvoir, voilà, soit s'y reconnaître, parce que c'est le cas des personnes qui passent à l'abri, soit mieux comprendre ou être interpellée. Et pour elle, ce qui l'a motivée, c'est vraiment de savoir que ça pouvait aider d'autres qu'elle aussi. Donc moi, je suis assez émue, c'est vrai que là, je vous en parle, parce que c'est un accompagnement complexe qui reste... La violence laisse des traces. Hein, qu'on y soit encore dedans ou qu'on en soit sorti, ça laisse des traces. Pour autant... Il y a des belles choses et des possibilités de rencontres, de partage. Et donc, je trouverais ça vraiment très, enfin, super pour elle qu'il y ait plein de témoignages sur le livre d'or de cette exposition. Parce que, bah, évidemment, tout ça, c'est complètement gratuit de sa part, etc. Et je compte sur les messages qui lui seront laissés dans le livre d'or pour que ça contribue encore au chemin qu'il lui reste à faire.
Le thème de cette année pour les semaines L, c'est femmes résistantes, femmes résilientes. Votre participation, elle était, j'ai envie de dire, logique. Et qu'est-ce que ces mots, ils représentent pour vous et pour les femmes que vous représentez ?
Bah, vous voyez, cette exposition donc, vient vraiment donner à voir sans avoir à en parler, parce que c'est tout l'enjeu. Ça ne passe pas par des mots, ça passe par des images. Comme je le disais, je pense que ça peut se nicher dans des petits interstices et des petits endroits, la résistance, la résilience. Et il y a un paramètre de temps là-dedans. On résiste une fois à quelque chose, mais il faut tenir, faut tenir. Et moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est que ces femmes sont résistantes, ces femmes sont résilientes, mais il y a un enjeu à ce que toute la société le soit, en fait, résistante et résiliente, à savoir que nous, citoyens lambda, on soit en mesure d'entendre, de voir et d'accompagner, parce que c'est quand même souvent, hein, que, et je ne reproche rien à personne, qu'on détourne le regard, qu'on tourne les talons, ou que parce qu'on n'est pas en mesure, ou même on a des mécanismes de défense aussi pour et on ne sait pas quoi faire. Donc il faut qu'on arrive à développer des manières de communiquer, de partager, pour se rassurer les uns les autres sur le fait que oui, les choses peuvent progresser. Alors encore une fois, je ne veux pas être complètement angélique. On est amené à se soutenir les uns les autres en tant que professionnels et soutenir ces femmes qui sont les premières, enfin qui sont vraiment des beaux exemples de force et de combat.
Ça va être la fin de cette interview. L'exposition, elle est visible jusqu'au 14 mars, donc à l'abri 13 mars.
Oui, il faut juste préciser parce qu'il y a une petite coquille. Elle n'est pas visible le samedi et le dimanche.
D'accord.
Voilà.
Du lundi au vendredi. Donc.
Du lundi au vendredi, voilà. De 9h à 17h.
Je vais être amenée à la démonter, et peut-être qu'elle restera sur place un peu plus longtemps. Voilà. Le livre d'or restera aussi accessible si on laisse. si jamais il y a des retardataires.
Ils peuvent nous téléphoner, les retardataires.
Ça sera donc à l'abri Gisèle Halimi, au 28 rue des Écoles à Blois. Je vous remercie d'être venu. On va redonner le numéro de téléphone, donc le 02 54 42 17 39. Pour finir, j'aimerais aussi rappeler un chiffre publié par le site Nous Toutes. C'est 20 femmes qui ont été victimes de féminicide en 2026.
Mes voitures de Miossec, de retour en direct et en studio à Studio Zef pour la suite du Shaker, votre agenda culturel. On vient donc d'écouter Miossec qui se produira ce soir à Vendôme. Il est de retour avec un nouvel album intitulé Simplifié. Il reprend la route avec ses deux compatriotes Stéphane Fromentin et Nicolas Meheux. Ensemble, ils proposent donc de nouveaux textes provocateurs mais sur un son plus épuré qui réinvente le répertoire français. La première partie du concert sera locale puisque vous retrouverez le groupe Jogo sur scène. Le trio d'Indie Folk allie les forces d'un bulldozer à la douceur des mouvements d'un berceau. Leur musique s'exprime à travers des textes qui abordent des thématiques intimes et sincères de l'enfance. Le concert débutera à 20h30 sur la scène du troisième volume à Vendôme. Le prix des places est au tarif unique de 20€. L'achat se fait sur le site de Figure Libre.
La Maison de la Loire à Saint-Dié organise ce soir dès 19h une balade nocturne à la découverte du monde mystérieux des rapaces et de leurs habitudes fascinantes. À travers sa sortie et accompagnée d'un guide expert, vous pourrez apprendre à reconnaître leurs cris, comprendre leur rôle au sein de l'écosystème et vous familiariser avec les problèmes qu'ils rencontrent. Cette soirée où nature et science se rencontrent pour éveiller votre curiosité est au tarif unique de 3€. La réservation obligatoire se fait au 02 54 81 68 07.
On file à l'espace culturel de Mer avec la compagnie de la Lune Blanche qui accueille la compagnie tourangelle à Nanaki Corpus pour présenter une lecture de leur spectacle Mordre. Se tenant ce dimanche 8 mars, journée symbolique pour les droits des femmes, le texte questionne les inégalités de genre, la sexualité et le système patriarcal. Il pousse le public à s'interroger sur ses croyances personnelles, sur l'amour et le bonheur. La lecture se fera en présence de l'autrice Adeline Gautré. Le texte sera donc lu ce dimanche à 16h30 à l'espace culturel de Mer. L'accès à la salle est au prix libre.
L'auditeur Planétarium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé Grégoire accueillera ce mardi 10 mars à 18h30 le lancement de la 36e édition du prix Emmanuel Robles. Les 6 premiers romans retenus par le jury seront dévoilés au cours de la soirée. Les professionnels de l'édition Jérémy Yem et Laurent Lafont seront présents pour échanger sur leurs activités. En marge de la soirée, un atelier manuscrit animé par Jérémy Yem sera organisé à la médiathèque Maurice Genevoix le mercredi 11 mars à 10h. Il recevra des personnes ayant un projet littéraire afin d'échanger avec eux. L'inscription obligatoire auprès de la médiathèque se fait au 02 54 56 27 40.
On part à Vendôme qui met en scène et en avant l'art de la marionnette cette semaine avec 3 rendez-vous de Mario en création. Cette fenêtre d'ouverture sur la création contemporaine est l'occasion de découvrir toute la richesse et la variété des spectacles de marionnettes. Avec au programme 3 spectacles, le premier, Cahier d'autopsie, une expérimentation plastique au service du polar. La pièce met en scène 2 médecins légistes faisant l'autopsie d'un corps. Les mystères concernant les circonstances de sa mort vont faire apparaître des secrets bien enfouis. Ce sera c'est donc pour Cahier d'autopsie, mardi 10 mars, au troisième volume du Minotaure à Vendôme.
Le second, Matin et soir, est un voyage doux à travers les souvenirs de vie de Nathan. Habitant sur une île, il se confie chaque jour à l'océan qui l'entoure, partageant avec le public des moments de vie réels et fantasmés. Le spectacle sera joué au Minotaure mercredi 11 mars à 20h30. Et enfin, Femme de l'ombre, un hommage à la réalisatrice Lotte Reiniger.
Reiniger.
J'ai vraiment tous les noms en fait.
C'est vrai, j'en avais aucun moi aujourd'hui.
Ce théâtre d'ombre met en scène le fantôme de l'artiste partageant son amour sans limite pour cet art. Ce conte visuel et sonore sera en représentation le jeudi 12 mars au troisième volume à 19h. La réservation des places pour chaque spectacle se fait sur le site de l'Hectare. Les tarifs sont compris entre 7 et 20 euros.
Et puis on se quitte comme d'habitude en musique.
Non, puisque c'est moi qui le
dernier. Ah oui, c'est vrai, il y a une feuille que je n'ai pas tout à fait exacte. Je l'avais notée en plus que tu intervenais. Pardon, il y a donc quand même de la musique. Donc ce jeudi au Château d'Eau avec les concerts de Firzed et Pygmalion qui ont été reçus dans la dernière Château Radio que vous pouvez retrouver évidemment en podcast sur notre site. Donc ils sont programmés tous les deux dans le cadre de la soirée Circuit court. Les deux artistes locaux donc seront sur la scène du Château d'Eau en première partie. Firzed qui revient avec un nouvel EP. Il rend hommage au rap français old school des années 90 et 2000. Ses textes sont toujours aussi revendicatifs et énergiques et il sera suivi donc par Pygmalion. Dégageant une énergie de rock à la Mick Jagger, il livre des textes poétiques et introspectifs. Grâce à ses sons mêlant rap, pop et électro, il embarque le public dans son univers bien à lui. Comme chaque jeudi, la soirée du Château d'Eau est gratuite et les portes s'ouvrent à partir de 18h30.
Et donc notre dernier concert cette fois-ci a lieu ce soir à la Maison de Bégon avec le groupe Zoko Baya. Leur musique mélange des rythmes et influences du monde entier, passant des chants traditionnels italiens aux sons enlevants de l'Amérique latine. Ils définissent eux-mêmes leur style comme étant un cocktail italo-tropical. Sur scène, ils invitent le public à voyager, créant la sensation de s'échapper à travers des cultures lointaines. Promettant une soirée enivrante, le concert commencera à 20h30. Le prix des places est de 14 euros. Vous pouvez encore acheter donc vos places sur le site de la Maison de Bégon.
Et puis deux petites annonces pour terminer avant d'écouter un morceau.
Le morceau qui sera Boum Boum.
Voilà, merci. Comme je n'avais pas l'info, merci. Donc deux petites infos. La semaine dernière, nous recevions dans le Shaker la nouvelle responsable de l'antenne loire-et-chérienne des Restos du Cœur. C'est ce week-end la collecte. Donc n'hésitez pas à donner pour les Restos du Cœur et à écouter le Shaker de la semaine dernière pour savoir de quoi il s'agit quand il s'agit des Restos du Cœur. Et puis on remercie Élie, notre stagiaire de 4e qui a fait la technique aujourd'hui et il s'en est très bien tiré. Bravo à toi.
Merci.
On se quitte donc en musique. Les informations que nous vous avons données dans ce Shaker sont à retrouver évidemment en podcast en début d'après-midi sur notre site. Bonne journée à tous et à toutes sur les antennes de Studio F. Salut Mathilde.
Salut Thomas.
Au revoir.
Boum 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 les corées. Boum 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 les salta. Boum 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 les corées. Mezzo les bombes. Lei corre, boom boom boom, lei salta in mezzo alle bombe.
mezzo alle bombe, sentivi l'allarme ululare tra i soldati, volevi passare, salvarti il collo da quella miseria, dentro le bottiglie sotto i campi ti nascondevi, nemmeno un respiro lasciavi passare, la fame sentivi, ma adesso no. Dove vai non tornerai, dove sei se non ci sei, senza te non c'è un perché. Boom 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 lei corre, boom 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 lei salta, boom 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 lei corre in mezzo alle bombe, boom 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 lei corre, salta in mezzo alle bombe. Correre, correre, correre in mezzo alle bombe.